Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Ce numéro est le dernier de cette saison avant la pause estivale et c'est l'occasion de faire le bilan sur les échanges commerciaux entre le Maroc et ses partenaires du continent. Vous aurez les détails dans quelques instants. Notre invité s'appelle Achraf Boukdib, il est le directeur général d'Era Group et BNI Maroc. Avec lui, nous parlerons des moyens d'optimiser les coûts pour les entreprises marocaines qui exportent vers les marchés africains. Il sera avec nous dans quelques instants. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Tout d'abord, notez ce chiffre, plus de 7 milliards de dirhams, c'est le volume de l'excédent du solde commercial du Maroc avec l'Afrique en 2024, selon l'Office d'échange. Il s'agit toutefois d'une baisse considérable puisque l'année d'avant, cette balance commerciale était excédentaire de plus de 12 milliards de dirhams. Cette chute s'explique, selon l'Office d'échange, par l'aggravation du déficit commercial vis-à-vis de l'Égypte, en plus de la baisse des excédents commerciaux avec la Côte d'Ivoire et Djibouti. Et nous prenons la direction du Sénégal où un séminaire a été organisé en début de semaine par l'ambassade du Maroc au Sénégal à l'occasion de la célébration de la fête du trône. Cet événement a été axé sur les chaînes de valeur intégrées pour une Afrique atlantique émergente. Ce séminaire a connu la participation d'un grand nombre d'acteurs politiques et économiques sénégalais et étrangers. Je vous propose d'écouter un extrait du discours de l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Nassiri.
Trois grandes initiatives portées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI structurent aujourd'hui l'action du Maroc en faveur d'une Afrique atlantique émergente. 1. L'initiative royale en faveur des États africains atlantiques, réunissant 23 pays, dont évidemment le Maroc et le Sénégal, autour de priorités telles que la sécurité, l'économie bleue, l'environnement et la connectivité. 2. Le projet du gazoduc Afrique-Atlantique, colonne vertébrale énergétique, traversant 13 pays. 3. L'initiative pour l'accès à l'Atlantique des pays du Sahel enclavés.
Coémergence, l'invité.
Il s'appelle Achraf Boukdib, il est le directeur général d'Era Group et BNI Maroc. Avec lui, nous allons parler des moyens d'optimiser les coûts pour les entreprises marocaines qui exportent vers le continent. Et Achraf Boukdib est avec nous dans nos studios ici à Tanger. Bonjour à vous, Achraf Boukdib, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à Omar pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de visiter Tanger.
Eh bien, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. Alors, vous avez tout à l'heure entendu ces chiffres sur les échanges donc, commerciaux entre le Maroc et les partenaires africains. Des échanges donc avec un excédent commercial d'environ 7 milliards de dirhams en 2024. Donc, qui dit échanges commerciaux, pense aux exportations des entreprises et justement, vous aidez les entreprises à optimiser leurs coûts en termes d'exportation. Alors, comment cela se passe?
Alors, pas uniquement en termes d'exportation, mais surtout on les aide à optimiser pour devenir compétitifs. Pas uniquement les entreprises marocaines, mais les entreprises dans tout le continent. Il faut dire que Era Group aujourd'hui existe depuis plus d'une trentaine d'années à travers le monde et nous aidons particulièrement la PME, la petite et moyenne entreprise, l'entreprise familiale, voire même les grandes entreprises à optimiser dans leurs charges. Ce n'est pas couper les charges aveuglément, mais plutôt les aider dans la performance, je dirais, financière. Particulièrement au Maroc, nous sommes ici depuis à peu près 18 mois, un an et demi, et nous avons signé pas mal de missions avec des entreprises locaux. Mais j'ai envie de dire pourquoi ils ont signé avec nous. Comme vous le savez, dernièrement, le monde a subi beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes. Les prix ont pratiquement quadruplé sur certaines matières premières. Donc, il y a beaucoup de choses que l'entreprise marocaine aujourd'hui ne peut plus contrôler. Surtout le prix de la matière première, le prix du transport à l'international et beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qu'elle peut contrôler, justement, ce sont les charges indirectes, où on peut réduire le coût et rester compétitif. Autrement, cette performance d'excédent commercial ne serait pas possible s'il n'y avait pas des actions menées en amont, justement, pour rester très compétitif.
En tout cas, c'est des éléments importants à noter. Alors, s'agissant maintenant du continent, comme on le sait, donc, le commerce avec l'Afrique est appelé à se développer. Pour les entreprises qui se lancent sur les marchés africains, comment aujourd'hui optimiser ces coûts? Comment les renforcer? Comment leur donner plus d'efficacité dans le processus ou leurs opérations d'exportation?
Il y a plusieurs leviers d'optimisation aujourd'hui qu'on peut aller chercher. Sur le transport, par exemple, que ce soit maritime, aérien ou terrestre, aujourd'hui, avec la vision de Sa Majesté, nous sommes en train de construire le continent. Il faut dire que le continent africain reste le dernier continent de la croissance. Et nous avons des taux de croissance qui sont phénoménales et très intéressants. C'est vrai qu'aujourd'hui, le continent africain, il représente à peu près 3% du PIB mondial. Donc, vous imaginez un peu...
La marge de croissance.
La marge de croissance qui reste, c'est phénoménal. Mais ceci dit que nous avons la chance aujourd'hui de construire sur des infrastructures, la logistique, la numérisation, j'ai envie de dire, et la digitalisation de l'Afrique. Ça veut dire aujourd'hui, le continent africain devient un continent très connecté. Mais par contre, nous avons beaucoup de chemin à parcourir en termes d'efficience financière et en termes d'optimisation. Aujourd'hui, on dépend beaucoup de l'Asie, on dépend beaucoup de l'Europe. Ceci dit que le continent africain, il dispose de ressources naturelles. En termes de démographie, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'éducation, en termes de diplômes. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on peut optimiser justement? C'est aller chercher des leviers de croissance dans, par exemple, la logistique. Trouver des nouvelles routes, construire des nouveaux ports. Et avec la vision de Sa Majesté aujourd'hui, je pense que le continent africain est prêt. Sur l'énergie, sur la durabilité. Donc, toutes ces problématiques-là, on peut nous, justement, aider à trouver des solutions et surtout s'inscrire dans un contexte de compétitivité qui est devenu très, très accru.
Alors, est-ce que cela passe par importer en priorité depuis le continent? Parce que d'ailleurs, quand on parle du commerce intra-africain, le taux reste encore en dessous des 20%. Est-ce que cela veut dire importer depuis le continent ou plutôt aller s'installer dans ces pays où il y a peut-être un potentiel de valorisation des ressources?
Pour moi, la solution, ça serait de s'installer sur place et vraiment de faire une transmission de savoir-faire et de faire des investissements locaux. Je pense que nous sommes tous fatigués que quelqu'un vienne nous vendre quelque chose. Nous voulons aujourd'hui vraiment trouver des partenariats gagnant-gagnant avec du courage, avec de l'investissement local et surtout favoriser les ressources humaines et naturelles locaux. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, nous sommes à la zone franche de Tanger. C'est la première fois que je la visite et je trouve ça vraiment admiratif.
Où se trouvent les locaux de Médine au passage?
Effectivement, effectivement. Donc aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plusieurs entreprises locaux qui vont aller, par exemple, je dis n'importe quoi, acheter du papier qu'on consomme chaque jour à Casablanca. Pourquoi aller acheter du papier à Casablanca? Parce que tout simplement, les entreprises locaux n'ont pas une liste aujourd'hui de tous les fournisseurs locaux où ils peuvent les challenger, où ils peuvent connaître leur prix et faire des appels d'offres locaux. Et parce que tout simplement, il y a quelqu'un de Casablanca qui est venu les prospecter ici. Ce que fait ERA aujourd'hui, c'est que nous, on va par exemple répertorier tous les fournisseurs locaux par carte postale et par adresse. Et on va essayer de faire un benchmark pour l'entreprise pour trouver le meilleur prix.
Mmh. Je vois. Alors,
donc, tout ça, excusez-moi.
Donc, au niveau continental, disons, transposer ça au niveau continental. Aujourd'hui, quand vous voyez les pôles régionaux en Afrique, on a plusieurs pôles, peut-être sous-régionaux même, je dirais, entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Quels sont, selon vous, les destinations qui vous paraissent plus à porter pour concrétiser cette optimisation des coûts pour les entreprises?
Tout le continent aujourd'hui regorge de potentiel. Je dirais que, comme disent les Américains, le blue sky is everywhere. Mais je dirais que les pays à fort potentiel, bien évidemment, il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, l'Éthiopie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Tanzanie, le Ghana, l'Ouganda. Bref, tous les pays aujourd'hui, je pense, il y a un potentiel énorme. Libre à nous aujourd'hui de travailler en bonne intelligence. Et au lieu d'aller chercher et de se sourcer ailleurs, nous avons les ressources naturelles. Ce qui nous manque, c'est la transformation. Et de transformer ici.
La transformation locale dont on parle depuis très longtemps et qui peut-être dans certains pays se concrétise, mais qui globalement reste encore à donc faire. Alors, quand vous prenez l'entreprise africaine, de façon simple, selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette entreprise africaine pour fonctionner au même niveau que... peut-être pas en termes de robustesse, mais en termes de procédures et de pratiques par rapport à celles qui sont plus performantes ailleurs dans le reste du monde.
J'ai envie de dire que pour l'entreprise africaine, dans tout concept d'entrepreneuriat, il y a trois P. Il y a la passion, il y a les personnes, il y a les process. Aujourd'hui, je pense qu'en termes d'investissement, nous sommes passionnés par l'investissement. Il y a un engouement pour l'investissement africain qui est incroyable. Je pense que nous avons les ressources, les personnes. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les process. Et mettre en place ces process. Et faire le suivi de ces process. L'implémentation et le monitoring. Et c'est là où ERA, elle peut aider. Justement, pour mettre en place ces process, pour les monitorer. Et pour justement aider l'entreprise marocaine, voire africaine, à être beaucoup plus efficiente.
En tout cas, on en a besoin. Merci à vous, Achraf Bourdib. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'ERA Group et Beni Maroc. Avec vous, nous parlions des moyens d'optimiser les coûts pour les entreprises marocaines et africaines qui exportent vers le continent et peut-être même ailleurs dans le reste du monde. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Sidi Omar.
Ça fait un plaisir.
Zoom Express.
Comment évolue le marché du halal en Afrique? Quelles sont les opportunités d'investissement dans ce marché? Et surtout, en quoi consiste justement le halal dans le continent? Vous allez avoir toutes les réponses dans cette rubrique Zoom Express. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mamadou Ndiaye, qui est le fondateur et directeur de Wasabih. Wasabih est une application mobile et une communauté qui réunit les professionnels des différents secteurs de l'économie mondiale du halal. Bonjour à vous, Mamadou Ndiaye, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, monsieur Balde, c'est un plaisir de travailler avec vous.
Merci. Avec nous également Mustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, spécialisée dans les investissements, mais aussi en qui connecte les investisseurs de la diaspora africaine. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, avec vous deux, comme je le disais à l'instant, nous allons parler donc de l'économie du halal. Mais avant cela, j'aimerais quand même poser cette première question à Mamadou Ndiaye pour lui dire, en Afrique, qu'entend-on par l'économie du halal?
L'économie du halal, c'est un secteur de l'économie ou une partie de l'économie, même mondiale, qui comprend la production, la distribution et la vente d'aliments conformes aux principes islamiques. Donc ça touche tous les secteurs d'activité. Mmh. On parle de 3 billions ou 4 billions. Ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est une croissance entre 9 et 35% chaque année.
Mmh. Une croissance donc entre 9 et 34%, 35% comme vous le dites. Alors justement, Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, parlez-nous des opportunités de l'investissement halal en Afrique.
Oui Omar, bon, c'est vrai que pour parler un peu plus sur le continent qui nous intéresse, déjà l'islam, ça, il faut donner quelques chiffres, c'est près de 500 millions de fidèles sur le continent africain. Donc aujourd'hui, ça fait la première religion d'Afrique, bon, ils disent à égalité avec le christianisme, mais bon, je pense qu'elle est un peu plus devant. Et je pense également aussi qu'investir halal ne se limite pas à respecter seulement des valeurs éthiques ou religieuses, c'est aussi, je pense, aujourd'hui un outil très puissant qui permet de promouvoir aussi des pratiques commerciales qui sont aussi socialement responsables. Il y a une croissance vraiment exponentielle de l'économie halal dans le monde, comme l'a dit Mamadou. Et je pense vraiment que cette croissance, elle offre à l'Afrique vraiment la possibilité d'exploiter vraiment ces avantages qui sont vraiment ces avantages, je dirais, démographiques et culturels à la fois dans ce secteur et de créer des emplois pour une population qui est, il faut reconnaître, majoritairement jeune. Donc c'est aussi une opportunité. Mmh. Et je pense que pour tirer parti aussi de ces possibilités qui sont offertes par l'économie halal, je pense que nos gouvernements, les investisseurs aussi privés d'Afrique, on doit investir dans des cadres qui sont, je pense, Mamadou pourra en chiffrer là-dessus, qui sont un peu plus réglementaires, des infrastructures, et aussi sensibiliser aussi la population là-dessus.
Mmh. Sensibiliser davantage la population. Alors, Mamadou Ndiaye, donc directeur et fondateur de Wasabeh, hein, Wasabeh, je pense que je prononce mieux. Est-ce que dans ces flux mondiaux du business halal, vous nous parlez d'une croissance de 9 à 35% par an. Quelle est la part de croissance ou que représente l'Afrique dans tout cela?
Pas grand-chose. Vraiment, l'Afrique, c'est bien dans le sens où il y a tout à faire. Les analyses qui se font souvent avec les pays de l'OCI. La part de l'Afrique est faible, mais elle est en forte croissance parce que la population, la jeunesse de la population, et aussi l'attrait qu'a l'Afrique a au niveau de l'investissement, pas que dans le halal, mais dans d'autres secteurs.
Alors, peut-être une dernière question pour vous. Les marchés africains sont plus des pays de consommation des produits halal ou d'exportation des produits du halal? Et surtout, quels sont les pays du continent qui représentent le plus d'opportunités dans ce secteur-là?
Les marchés africains importent le halal. Ils importent un peu de tout, par exemple.
Est-ce que c'est les pays à majorité musulmane ou bien les pays où il y a une communauté musulmane?
Par exemple, si on prend le cas du Nigeria, un grand marché, qui importe sur la base de la taille de sa population. Les marchés africains importent en général avec le cadre de l'OCI, ça aide bien à importer facilement des pays de l'OCI qui ont pour beaucoup la certification halal, mais on importe de partout. Par exemple, on importe de France, on importe d'Inde, des produits qui ne sont pas forcément halal ou qui n'ont pas forcément la certification halal. N'empêche que c'est des marchés jusque-là ouverts, pas aussi réglementés qu'en Malaisie. Par exemple, si on prend la Malaisie, là où je vis, et qui sont les leaders du halal, un produit n'entre pas s'il n'est pas halal, s'il n'est pas certifié, s'il n'a pas une autorisation, même des pays Dubaï ou des pays du Golfe. Voilà. Donc l'importation est ouvert parce qu'il n'y a pas encore cette réglementation, mais le potentiel, c'est que, ce que disait Moustapha, c'est que les populations africaines progressivement se deviennent de plus en plus sensibilisées et le travail du gouvernement à les sensibiliser permettra d'augmenter la demande en produits halal et là, ça permettra aussi à l'offre de pouvoir s'exécuter.
Un potentiel donc énorme à explorer, à exploiter. Merci à vous deux, Mamadou Ndiaye, fondateur et directeur de Wasabih, une plateforme, une application mobile qui réunit donc les professionnels des différents secteurs de l'économie mondiale du halal. Merci à vous, ainsi qu'à Mustapha El-Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui connecte les investisseurs de la diaspora et des diasporas même africaines entre elles. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Comme je le disais à l'entame de cette émission, c'est le dernier numéro de la saison. Ce fut un plaisir de vous accompagner durant toute cette saison. J'espère, Inch'Allah, vous retrouver à la rentrée, toujours sur Medium et toujours pour l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique pour le développement de notre continent. Bonnes vacances à vous et bonne suite de programme sur Medium.